Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. La musique est depuis toujours votre vraie raison de vivre. Votre guitare à six cordes vous a permis de démontrer que vous en aviez plus d'une à votre arc. Vous publiez un livre électrique qui démontre que le courant passe en coulisses, mais aussi avec le public. Bonjour Yarol Poupeau.
Bonjour.
Alors il y a ce livre électrique chez Plon que vous sortez, qui raconte un peu vos mémoires et on va en parler. On vous avait reçu voici 3 ans dans les clés d'une vie, le temps passe, et vous avez fait beaucoup d'autres choses depuis. Alors, le principe n'a pas changé, 4 dates et votre vie. Et votre vie, elle commence le 16 août 1977.
Oui, enfin...
Vous avez 8 ans et demi, mais elle commence vraiment ce jour-là.
Ben oui, c'est-à-dire que le 16 août 77, si vous ne le savez pas, c'est la date à laquelle elle nous a quittés, Elvis Presley.
Exactement.
Voilà, alors donc moi j'avais déjà un petit peu des émotions musicales liées. Il faut savoir que là où j'ai grandi, notre mère qui travaillait dans le cinéma, qui était dans un milieu un petit peu artistique, écoutait beaucoup de musique à la maison. Mais elle écoutait plutôt des trucs du genre Bob Dylan, Neil Young, Cat Stevens, des trucs un peu plus folk. Mais j'avais quand même de temps en temps des morceaux de rock'n'roll, des trucs des Beatles ou des trucs des Rolling Stones que j'avais pu entendre qui me parlaient, ça me faisait réagir. Et le jour où Elvis Presley est mort, en fait, j'ai vu ça à la télé en tant qu'enfant. Et là, tout d'un coup, ça a fait tilt. J'ai dit, mais oui, bien sûr, mais en fait, c'est ça le truc que je recherche qui m'excite et qui me donne cette énergie. Donc, en fait, j'ai mis de côté les jouets avec lesquels j'étais en train de jouer ce jour-là et j'ai plongé la tête la première dans le rock'n'roll.
Alors, il y a eu Jealous Rock, le rock du bagne, oui, qui est un des 3 meilleurs films d'Elvis, sont les spécialistes.
Alors, c'est quoi les 2 autres?
Ah bah, j'ai que celui-là pour l'instant.
je peux vous dire.
Allez-y.
Il y a King Creole, qui est le meilleur de Michael Curtis. Et alors, il y en a un qui synthétise un peu, quand même, qui est peut-être le meilleur des années 60, c'est Viva Las Vegas, qui est quand même assez marrant.
Alors justement, il y a eu aussi un grand concert, Comeback spécial de 68.
Bien sûr.
Que vous avez vu en boucle sur les magnétoscopes naissants.
Bien sûr.
Et il y avait derrière le colonel Parker qui était un génie.
Un génie, mais en même temps, un drôle de génie quand même. Il faut savoir que le colonel Parker, il avait fait fortune avec ses poulets dansants.
Oui.
Et alors, donc, il avait des plaques chauffantes, hein, donc avec du gaz en dessous, et il balançait des poulets dessus qui se brûlaient les pattes et qui, du coup, dansaient des gigs effrénés pour attirer le passant dans les fêtes foraines. Donc, c'était quand même une espèce de mec...
L'un de ses coups de génie aussi, c'est qu'il a dit à Elvis un jour, au lieu de jeter tes vieux costumes, on va en faire des petits morceaux et on va les inclure dans un coffret. Résultat, il a vendu ça à la maison de disques RCA et ça lui a rapporté $500 000 vieux costumes. Alors, vous regardez aussi au cinéma les films d'Elvis, La Blonde et Moi, à l'Action École, c'est un de vos films cultes aussi.
Oui, La Blonde et Moi. Alors, il n'y a pas Elvis dedans, mais par contre, on voit, c'est là que j'ai découvert un petit peu... Eddie Cochran, Gene Vincent, Little Richard, il y a toute une espèce de comme ça de best-of des morceaux de rock'n'roll. C'est en 57 ce film, je crois.
Oui.
Frank Tashlin avec Jane Mansfield. Et voilà, c'est vraiment, on est en plein dans l'époque et en plein dans le rock'n'roll. L'époque où c'était quelque chose de révolutionnaire, de moderne, de nouveau, de...
Et votre quartier général, à l'époque, c'est un lieu très ancien, puisqu'il date du temps de Lutèce, c'est les arènes de Lutèce, où vous écoutez sur un banc les chansons d'Elvis, de Cochrane ou des autres.
Bien sûr, j'habitais juste à côté, donc c'était un espèce de... Bah, c'est un endroit que j'aime toujours beaucoup, qui est très agréable, et donc en sortant de l'école avec mes copains, on allait traîner là-bas, parce qu'il y avait plus ou moins une bande qui s'était formée, la bande des arènes, et donc moi j'étais un peu le plus gamin de tout ça, mais on avait des petits postes à cassettes, et puis on venait avec les cassettes qu'on s'était faites ou qu'on avait réussi à choper ou à voler dans les supermarchés pour écouter effectivement les disques d'Elvis, de Cochrane et de Chuck Berry. Quoi.
À l'époque, il n'y avait pas de contrôle dans les magasins, effectivement.
Je m'étais fait choper une fois en piquant des chewing-gums.
Oh, ça va, c'est pas
d'ailleurs, j'ai arrêté de voler après.
Vous avez volé de vos propres ailes uniquement.
Exactement.
Et à l'époque, d'ailleurs, je crois qu'il y a votre nom qui est gravé dans les arènes de Lutèce.
Bah oui, parce qu'on passait tellement de temps assis sur ce banc que vu qu'il y avait la pierre à côté, et voilà, c'était une manière un petit peu d'indiquer que c'était notre territoire.
Un jour, vous avez été à Nashville, Yarol Poupeau, Et effectivement, moi, j'ai vu Graceland, la maison d'Elvis. Bon, c'est pas à l'image du rocker.
Ah, c'est pas mal quand même. C'est à Memphis, hein, c'est pas à Nashville, Graceland. Mais moi, j'ai bien aimé, j'ai été touché de me retrouver dans cet endroit où il avait vécu, de voir ses objets, de sentir un petit peu la vibe. Non, moi, ça m'avait beaucoup ému de lire Graceland.
Moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir les petits objets qu'on vendait, c'est-à-dire les petites guitares en porcelaine pour ranger ses affaires.
Ah bah, carrément. Et puis, il y a le Heartbreak Hotel en face, qui est un espèce de motel dans lequel il y a des chaînes de télé qui passent que les films d'Elvis en boucle. Enfin, c'est un business pas possible, hein, Graceland.
Ouais. Et le jour où j'étais là, il y avait Carl Perkins qui était là.
Ah, pas mal. Ouais. Ah, pas mal.
Et Carl Perkins qui était habillé de bleu, et la voiture, sur sa plaque d'immatriculation, il y avait écrit Blue Sweat Shoes.
Ah, bah voilà.
Personnage étonnant. D'ailleurs, je crois que le premier concert que vous avez vu au Bataclan, Yarel Poupeau, c'était Carl Perkins.
Ouais, c'était Carl Perkins. Voilà. Donc, sachant que j'avais vraiment envie de découvrir le rock'n'roll. J'avais vu que, je sais pas, il devait y avoir une pub dans Rock'n'Folk ou dans Best à l'époque, ou un truc comme ça, comme quoi Carl Perkins passait. J'avais appris que c'était lui qui avait écrit Blue Sweat Shoes, et je m'étais dit, il y a un concert de rock'n'roll, je vais absolument y aller. Donc je m'étais débrouillé pour y aller.
Et avant Elvis, votre passion, votre rêve, c'était de devenir cow-boy, Yarel Poupeau.
Ben ouais, complètement. Ouais, ouais, moi j'étais une vraie passion, bah, comme plein de mômes de ma génération, et même encore après, hein, pour les westerns, pour les cow-boys. Ça a été un peu complètement fantasmé. Le chapeau, le cheval, le colt, les bandits, les shérifs, les poursuites comme ça dans la poussière, à cheval, à fond la caisse, au milieu des cactus, ça me faisait complètement fantasmer. Donc oui, je voulais être cow-boy.
Vous aviez un cheval à bascule que vous appeliez Black Beauty,
ouais.
Et vous braquiez les commerçants.
Complètement. Ah ouais, 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 j'allais braquer les... j'allais... Enfin, c'était un deal avec... tu vas me donner une baguette ? J'attaquais la... Et puis ma mère passait après pour régler. Là.
Bah voyons. Et il y a eu les vacances en Camargue aussi. Vous
avez... Ben oui, mais ça, la Camargue, c'est un endroit que j'aime toujours autant. J'y vais dès que possible. J'y suis passé encore cet été. Moi, je trouve que c'est un endroit qui a un charme fou, qui est dément. J'adore effectivement me balader. Alors, toujours à cheval ou même en voiture. La route de Méjane, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la route de Méjane, mais prendre cette route à la tombée du soleil, c'est paradisiaque. C'est un endroit vraiment que j'adore.
Et puis, il y a une chanson aussi qui fait partie de vos Marseillaises personnelles.
I'm the cowboy from Aubervilliers.
Le cow-boy d'Aubervilliers, Michel Mallory.
Ah ouais.
Vous adorez Yarel Poupeau.
Bah, j'aimais ça quand j'avais 3-4 ans, ouais, parce qu'il parlait d'un cow-boy, puis c'était rigolo, c'était en français. Les chansons de cow-boy en général, c'était des chansons qui étaient en anglais. Moi, je parlais pas, enfin, à 4-5 ans, voilà, alors que là, je suis le cow-boy d'Aubervilliers. Moi, ça me faisait marrer, quoi.
Et cette chanson, personne n'en voulait. Je crois que Johnny a dû payer l'enregistrement.
Exactement. Donc, Michel Mallory, qui était un copain de Johnny, qui avait écrit beaucoup de chansons avec lui, avait envie de faire ce disque, et c'est Johnny, je crois qu'il avait soutenu et qu'il avait même payé l'enregistrement, la séance d'enregistrement de ce titre.
Alors au départ, la passion de vos parents, c'est pas du tout cet univers-là, c'est la science-fiction, et c'est à cela que vous devez votre prénom, Yarol.
Oui. Tout à fait.
Vous appelez Stanislas en réalité.
Ouais, mon vrai prénom. En fait, non, mon vrai prénom c'est Yarol, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça que mes parents voulaient m'appeler, mais ils n'ont pas eu le droit parce que quand je suis né en 68, en fait, il fallait que le prénom soit dans l'état civil, enfin, soit dans la liste.
Dans la liste, oui.
Donc, un espèce de prénom du calendrier, quoi. Et en fait, non, ils n'ont pas eu le droit, ils m'ont appelé Stanislas, parce que je crois qu'il y avait un autre auteur de science-fiction, Stanislas Lem, qui est assez connu aussi, qu'ils aimaient beaucoup. Mais donc, Yarol, en fait, ça vient d'un personnage. J'ai beaucoup lu d'ailleurs ses aventures ensuite, qui est un Vénusien, qui est le copain de Northwest Smith. Et tout ça, ça vient de nouvelles qui ont été écrites par une nana qui s'appelle Catherine Moore dans les années 30-40.
Voilà, et qui a été la précurseur femme des auteurs de science-fiction.
Complètement, complètement. Une des premières nanas à avoir écrit de la science-fiction.
Il y a quelque chose qui marchait beaucoup moins bien, c'est l'école. Je crois que c'était pas génial. Vous avez fait l'école des enfants du spectacle, c'est à peu près votre meilleur.
Ça marchait moins bien, j'ai quand même mon bac avec mention.
Oui, hein. Mais attention, grâce à l'anglais, à la musique.
Oui, enfin, c'est-à-dire que j'ai effectivement fait une année de troisième dans ce collège qui était le qu'on appelait l'école des enfants du spectacle, en fait, qui était des horaires aménagés pour permettre aux élèves d'avoir une activité artistique à côté. Donc la plupart des élèves qui étaient là étaient des danseurs qui faisaient l'école de danse de l'opéra, qui étaient des mômes qui étaient au conservatoire, qui étaient tous très très talentueux et qui étaient tous des bosseurs acharnés. Je me rappelle très bien d'une copine qui était violoniste, d'un pote à moi justement qui était pianiste, concertiste, enfin des mômes qui à 13-14 ans avaient un niveau déjà que ce soit en danse, en musique ou je crois qu'il y en avait qui faisaient aussi l'école du cirque, qui faisaient plein de trucs, des écoles de comédiens, enfin voilà, donc c'était une école quand même, j'ai très bon souvenir de cette année parce que les élèves étaient hyper intéressants, puis tous très talentueux.
Oui, et ça vous a permis de donner votre premier concert, de chanter le blues du dentiste au Paradis Latin, juste à côté.
Voilà. Oui, c'était l'école touchait le Paradis Latin, donc chaque année, ils faisaient la fête de fin d'année là-bas, et voilà. Donc,
Et ce qui était étonnant dans cette chanson, c'est d'Henri Cording, Henri Salvador, et qu'au départ, c'était une chanson anti-rock.
Bah oui, rock'n'roll mob, c'est tout ça, oui. Bah, il avait écrit ça avec Boris Vian, et il flippait un petit peu du rock'n'roll, peut-être ça, il avait peur que ça lui pique la vedette, je sais pas, il avait pas bien compris le truc. Johnny nous racontait souvent, d'ailleurs, que Salvador, au début, n'avait pas été tendre du tout avec les débuts des rockers, et notamment de Johnny, qui s'était fait huer, et que Salvador n'avait pas été très cool avec le rock'n'roll au début.
Oui, mais ça s'est arrangé ensuite, et on va en parler avec une autre date, le 21 juin 1989. A tout de suite sur Sud Radio, avec Yarol Poupeau.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yarol Poupeau. Donc, il y a ce livre électrique qui sort chez Plomb, qui sont vos mémoires de jeunesse et de rocker. Et vous évoquez dedans une date, le 21 juin 1989, un concert dans un lieu qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelle l'usine éphémère.
Oui.
Qu'est-ce que c'était ce lieu ? C'était une fête de la musique.
Oui, c'est une fête de la musique. En fait, l'usine éphémère, c'était un des premiers lieux, je crois que c'était le premier lieu qui a été ouvert par un mec super qui s'appelle Christophe Pasquier, que je salue s'il nous écoute, qui avait eu la très bonne idée de demander à la mairie de Paris si, par exemple, en l'occurrence, cette usine, là, qui était rue David d'Angers dans le 20e, je ne sais plus une usine de quoi c'était, mais on savait que ça allait être détruit, que ça allait être rasé pour construire autre chose après. Mais le temps que les travaux soient faits, que les travaux même commencent, le temps de permis de construire et tout ça, il y a toujours un laps de temps où l'endroit reste un peu vide, il ne sert à rien. Donc il s'était dit, est-ce qu'on peut faire une résidence d'artiste dans ce lieu pendant un an ou deux, le temps que les travaux se mettent en forme. Donc il a eu l'autorisation, ça a été le premier lieu qu'il a fait. Ensuite, il a monté ça à l'hôpital Bretonneau, qui était pareil, qui allait être, rénové. Oui, voilà. Donc il y a eu un laps de temps. Alors là, il a eu du bon, ça a duré quasiment 10 ans. Et ça a été l'hôpital éphémère qui a été un lieu très très important pour moi en tant que musicien, pour mon groupe FFF, et puis pour plein d'autres artistes, musiciens, mais plasticiens aussi, photographes, créateurs de mode. C'était vraiment un lieu avec une effervescence artistique assez dingue.
Alors le groupe FFF, ça veut dire non pas Fédération Française de Football, mais Fédération Française de Funk. Et voilà. Funk, c'est un mélange de funk et de rock.
Oui, c'est ça. Bah, c'était vraiment une période où... c'est toujours, d'ailleurs, en ce qui me concerne, la même période. On a toujours envie de mélanger un petit peu les influences et les styles musicaux. Faut pas oublier que le rock'n'roll, à la base, c'est quand même une musique métissée. Voilà. Nous, on aimait Jimi Hendrix, on aimait George Clinton, on aimait AC/DC, on aimait James Brown, on aimait Bob Marley, mais on aimait aussi Led Zeppelin. Donc, on a mis tout ça dans une espèce de marmite et ça a donné le funk.
Et d'ailleurs, il y a des homonymes. J'ai découvert que Cecilia Funk, c'est le même nom, est Miss Univers 1987.
Eh ben voilà, Cecilia Funk, c'est pas vrai.
Oui.
Ah, je vais la contacter.
Alors, la guitare, c'était votre rêve de toujours. Ça a commencé, je crois, avec un petit instrument qui venait d'un lieu qui s'appelait Trois fois rien.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu envie d'apprendre la guitare, effectivement, je suis allé faire un tour dans mon quartier et il y avait cette espèce de... C'est des magasins qui existent toujours, des espèces de bazars où il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et il y avait des guitares, effectivement, qui étaient, à mon avis, plus une guitare qui servi à faire de la déco dans un restaurant ou un truc comme ça, que c'est un vrai instrument. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même fait mon premier accord là-dessus.
Et ensuite, votre premier concert, c'était avec Jacques Higelin à 11 ans.
Alors, c'était pas un concert, c'était...
c'était un concert.
Non, j'avais été invité à l'anniversaire d'une très bonne amie de ma mère qui s'appelait Catherine Ribeiro.
Oui.
Voilà, qui était une chanteuse très engagée, un petit peu de la scène rock, un peu psychédélique, planante des années 70. Et à son anniversaire, il y avait Higelin qui était là, qui jouait du piano. Et il y avait une basse à côté, un instrument. Donc moi, j'étais fasciné par la basse. J'étais assis à côté, je regardais. Et puis il avait vu que je traînais là et que j'avais qu'une envie, c'était de toucher cet instrument. Il m'avait dit, viens, prends la basse, tu joues la grosse corde, tu touches pas les autres et tu fais juste doum, doum, doum. Et on a improvisé comme ça, un blues. Il avait été super avec moi, Julien, et voilà.
C'était un incroyable perfectionniste. Quand il avait raté un concert, il recommençait, parce qu'il voulait que ce soit parfait.
Ah oui, il recommençait. D'ailleurs, il restait sur scène des fois pendant 4-5 heures.
Oui, on ratait le dernier métro sans problème avec lui. Alors, le cœur de ce début, c'est Pigalle, qui est le cœur de la musique funk ou rock à l'époque.
Bah, ça a toujours été un quartier de musiciens, un funk rock, même dans les années 50, 60, même avant. En fait, la place Pigalle servait un petit peu de marché aux musiciens à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire que les gens qui avaient un estaminet, un bal, un truc, un anniversaire, un mariage, venaient à place Pigalle, il y avait des musiciens qui étaient là. Bon, bah, il me faudrait un accordéoniste, une trompette et un batteur pour une fête ce soir. Moi, j'aurais besoin d'un orchestre, d'un quatuor à cordes. Donc, en fait, les musiciens traînaient sur la place Pigalle. C'est toujours, il se passe toujours pareil à Mexico, City, bien. Puis à la place des mariachis. Donc, quand on veut faire un mariage ou quand un anniversaire ou une fête pour un copain, on va sur la place des mariachis. On a dit, toi, vous êtes dispo, hop, venez bosser.
Et ça se passait aussi dans les années 30. Bruno Cocatrix, qui n'est pas encore directeur de l'Olympia, il est chef d'orchestre. Il va dans un bar, il dit j'ai besoin de musiciens, qui veut faire. Et ils ont levé la main, et c'est comme ça qu'il a formé son premier orchestre.
Et ben exactement. Donc ça s'est passé toujours à Pigalle, et c'est pour ça qu'il y a plein de musiciens, plein de magasins de musique à Pigalle, et du coup, depuis toujours, beaucoup de musiciens.
Alors, il y a quelqu'un à qui vous devez beaucoup, quelqu'un à qui vous avez donné des cours de guitare, c'est Yvan Attal,
oui.
Yvan Attal.
Ben oui, en fait, on avait un copain en commun et Yvan avait envie d'apprendre la guitare. Donc, mon pote lui avait donné mon numéro, il m'a appelé, très sympa, il venait à la maison, je lui apprenais des accords, des plans de guitare. J'ai jamais été un très bon prof, mais bon, à l'époque, moi, ça m'arrangeait. Puis déjà, on s'entendait bien, il était très cool. Il venait de faire ce film super, Un monde sans pitié, que j'avais beaucoup aimé. Donc, bon, on parlait de cinéma et de musique et... Et il se trouve que ça correspondait à la période où on avait fait une première démo avec mon groupe FFF. Et je lui avais fait écouter. Un jour, il était venu prendre un cours, comme ça, hein, avant de partir. Je lui ai dit, ah, tiens, écoute ce que j'ai fait. Il me dit, mais c'est super, hein. Fais-moi une copie, il faut que je la passe à mon copain qui bosse chez Sony Music. Donc, je lui ai fait une copie. Et il se trouve que ce Pierre-Louis Berlatier, donc, qui était directeur artistique chez Epic, Sony, à l'époque, a adoré la cassette. Et que c'est grâce à lui qu'on a ensuite pu signer et faire notre premier album.
Voilà. Et avec un dilemme, c'est-à-dire que vous avez eu le choix, Yarol Poupou, entre Niagara et FFF.
Ben, c'est souvent ce qui se passe, malheureusement, heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on attend pendant longtemps qu'il se passe quelque chose, il ne se passe pas grand-chose, on galère, on est là, on fait des petits trucs à droite, à gauche, à Paris, et puis tout d'un coup, ça se débloque, mais ça se débloque complètement sur plein de niveaux en même temps. Donc oui, c'est sûr que j'avais été contacté par le groupe Niagara. Je ne sais plus comment ils avaient entendu parler de moi à l'époque, mais peut-être parce qu'un Daniel ou elle m'avait vu en concert ou quelqu'un, voilà. Donc je fais une audition pour partir en tournée avec eux. Avec FFF, pour l'instant, on attendait un petit peu qu'il se passe quelque chose. On avait quand même beaucoup bossé, mais là, on était... Et donc, je suis pris pour faire cette tournée de Niagara. Et pile en même temps, on signe aussi avec FFF et on nous propose d'aller enregistrer notre premier album à New York. Donc je me suis retrouvé à 21 ans, tiraillé entre deux jobs super excitants à faire en même temps. Alors évidemment, j'ai quand même réussi à bosser et faire la première partie de la tournée Niagara, mais évidemment, je suis parti avec mon groupe faire enregistrer mon album à New York.
Voilà, et il y a eu trois albums et le plus
quatre.
Grand
quatre mais non, le plus un live.
Plus un live, mais le troisième album, il y a eu un événement, il y a eu cette chanson Yarol Poupou.
Amis touristes, visitez mon village.
Barbès, c'est une chanson dont on vous parle encore aujourd'hui.
Bah oui, c'est un petit peu la chanson la plus emblématique du groupe. Elle parle de notre quartier, elle parle de justement du métissage. Je pense qu'elle résume vraiment ce qu'est FFF.
Voilà. Et ce groupe a eu la victoire de la musique du meilleur spectacle musical de l'année en 97.
Ouais.
Il aurait pu durer, puis un soir au Vepler, vous avez décidé, Vepler est une brasserie à Pigalle, que c'était terminé.
Bah, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble d'arrache-pied comme des dingues pendant plus de 15 ans, 24-24 ensemble, en enchaînant tournée-studio. Et au bout d'un moment, en fait, on s'est retrouvé à plus trop savoir ce qu'on avait à dire. On avait un peu fait le tour de ce qu'on avait exprimé ensemble en tant que musiciens. Donc on s'en est parlé, on s'est dit bon ben voilà, peut-être là c'est le moment de faire un break, peut-être chacun avait envie de faire d'autres trucs, de travailler avec d'autres gens, de vivre d'autres expériences à droite à gauche, plutôt que de rester complètement focus sur cette aventure 24-24. Donc voilà, au bout d'une quinzaine d'années, on a décidé effectivement de faire un break. Mais on s'est reformé ensuite. On a refait des concerts en 2004, on en a refait en 2007, on en a refait là en 2014-2015. C'est pas exclu qu'on refasse pas des trucs ensemble bientôt. Mais oui, voilà, c'était...
C'est une belle aventure.
Ah ben c'était une aventure fantastique.
Alors, ça s'est terminé, vous avez continué tout seul et on va en reparler à travers une autre date, le 25 février 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Carole Poupeau.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yarol Poupeau. Ce livre électrique chez Plon, c'est un peu vos mémoires. Et dans ce livre, vous évoquez le 25 février 2011. Et c'est la nomination au César pour ce film.
Et bien si tu ne me crois pas, je passerai la nuit.
Nomination au César pour la musique de Bus Palladium, le film de Christopher Thompson. Bon, vous ne l'avez pas eu, mais ce n'était pas une vraie déception, Yarol Poupeau.
Bah, c'était déjà hyper cool d'être nominé. C'était déjà hyper cool de travailler sur ce film. C'était hyper cool d'être nominé. Après, c'est sûr qu'on est content de l'avoir, qu'on l'a, et voilà. Non, enfin, c'était génial. Moi, j'ai adoré... travailler sur ce film et en plus qu'il soit récompensé, parce que c'est une vraie récompense d'être déjà juste nommé pour ça.
Voilà. Alors Christopher Thompson avait eu l'idée de ce film en passant devant une bande de jeunes. Il s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait à cet âge-là? Il a eu l'idée de ce Bus Palladium et finalement il a fait appel à vous, ce qui a été aussi une surprise pour vous, Yarol Poupeau.
Ben, on se connaissait un petit peu, Christopher, en fait, dans le sens où on avait traîné un peu avec la même bande de potes à la fin des années 80, justement autour de groupes comme Le Cri de la Mouche, qu'on traînait souvent au Bus Palladium, justement, et tout ça. Mais je le connaissais pas. Et en fait, c'est via un ami commun qui travaillait dans la musique qui lui a parlé de moi. Et bon, il m'a fait lire le scénario. On a commencé à... Il avait branché plusieurs personnes pour faire de la musique. Donc voilà, j'ai commencé à écrire quelques chansons, je lui ai envoyé et il a tout de suite trouvé que ça correspondait exactement à la couleur qu'il cherchait. Donc ça s'est embrayé directement et on s'est très bien entendu sur le tournage, on s'entend toujours très bien et c'était un vrai plaisir de bosser sur ce film.
Et ce film qui n'a pas eu un grand succès est aujourd'hui devenu culte.
Ben oui, alors, en fait ça n'a pas eu un énorme succès quand c'est sorti. Je pense qu'il y a eu un petit problème d'identification du film. Peut-être que les jeunes ont cru que c'était un film nostalgique pour les vieux et puis peut-être que les vieux se sont dit que c'était un film pour les jeunes. Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça a ensuite eu beaucoup de succès en VOD, en DVD aussi, et que là, depuis un moment, c'est sur Netflix et qu'on en a beaucoup parlé. Ça a été pas mal vu aussi.
Et Bus Palladium, c'est aussi le bus d'acier que vous avez eu en 93. Il y a un lien. D'ailleurs, on ignore que Bus Palladium, l'idée est née dans la tête de James Arch d'appeler ça le Bus Palladium parce qu'il y a eu un article de Jacques Chancel à l'époque, qui était chroniqueur à Paris Jour et qui avait écrit des bus pour le Palladium en parlant de l'initiative de prendre des bus pour ramener les gens chez eux le soir.
Exactement.
C'est fou. Exactement. Hein. On doit ça à Jacques Chancel. Alors,
et je crois que l'arrêt de bus qui est devant le Bus Palladium, d'ailleurs, a été fait exprès pour ce truc-là, parce qu'il n'était pas là avant.
Exactement. Alors, vous avez fait aussi beaucoup de musique avec votre frère comédien, et ça aussi, c'est quelque chose qui a causé quelques problèmes dans le quartier, parce que ça faisait du bruit au départ.
Bah, oui, c'est-à-dire qu'évidemment, moi, quand j'ai commencé la guitare, ce qui m'intéressait, c'était la guitare électrique, et puis le rock, voire le hard rock. Et donc, oui, c'est sûr que ça fait pas mal de boucans. Et puis Melville, qui suivait le mouvement aussi, qui était aussi très attiré par ça. Lui, c'est la batterie qu'il branchait, donc on avait dans notre chambre une guitare électrique avec un ampli Marshall et une batterie. Donc c'est sûr que le mercredi après-midi, quand on se déchaînait, on avait des plaintes qui venaient de tout l'arrondissement.
Alors Melville, qui est comédien, et vous l'avez suivi un jour sur le tournage d'un film de Raoul Ruiz au Portugal, c'est L'île au trésor. Ça vous a marqué, ça, Yarol Poupeau?
Ah oui, bah, c'était un tournage super. Et puis, déjà, l'ambiance sur les tournages de Raoul Ruiz, c'était tout, déjà, il y avait mon frère, Raoul Ruiz est un mec extraordinaire. Et sur ce film, c'était super, parce qu'il y avait un espèce de casting complètement hétéroclite. Il y avait donc Jean-Pierre Léo, qui jouait dedans, que j'aime beaucoup. Il y avait Martin Landau, qui vous voyez qui est Martin Landau, qui a été un comédien américain très très important, qui était même prof pendant longtemps à l'Actor Studio, qui était un copain de James Dean, de Brando et tout ça. Et il y avait Sheila aussi, qui était dans le film, qui avait un petit rôle. Donc c'était une espèce de bande de gens assez qui venaient dans tous les sens. Et c'était un été, on tournait ça pendant les vacances, c'était génial, j'avais adoré ce tournage. Et Stevenin qui était là aussi.
Et Stevenin. Il y a eu un concert aussi tout à fait différent, je crois, sur les marches du Palais de Chaillot, pour fêter une rétrospective des films porno des années 70.
Exactement, bah ouais, c'est les connexions qu'on avait. Hein. Sauf qu'on a monté notre groupe avec Melville et notre pote Hopi Lebel, qu'on avait appelé Mud. Et bon, voilà, et Hopi qui était dans le cinéma aussi, avait un copain qui s'était occupé de bosser pour cette effectivement rétrospective de cinéma X des années 70, mais entre guillemets un petit peu arty, un peu classe, quoi. Genre voilà. Derrière la porte verte, des trucs comme ça. Donc entre deux projection, on s'était mis dans le hall de la Cinémathèque, qui était encore à Chaillot à l'époque, et on avait joué nos premières chansons.
Et d'ailleurs, c'était pas loin de la Cinémathèque, il y avait juste en dessous une autre salle, et au début des années 70, on sort History of the Blue Movie, l'histoire du film porno, à 23h, sans annonce dans Pariscope, et c'est plein. Les ministres, tout Paris est là, par le bouche à oreille, et ça a fait un tabac, et on a refusé du monde.
Voilà.
Comme quoi, hein, c'est autre chose. Alors, avec votre frère, vous avez lancé aussi une aventure improbable dont vous aviez eu l'idée à Los Angeles, ça s'appelle L'autre à Pigalle, Hérol Poupeau.
En fait, moi, j'ai... Suite à nos aventures avec FFF, quand on a arrêté, j'avais passé tellement de temps dans des bus, dans des camionnettes, dans des vannes sur la route, que je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment un petit peu de me calmer niveau concert, niveau tournée. J'avais pas envie de me mettre, entre guillemets, sur le marché des gens, partir en tournée avec un chanteur ou une chanteuse comme ça. Donc, me suis tout plus tourné vers la production. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en studio à travailler avec des jeunes artistes, à produire des albums pour des groupes de rock un peu underground, à aider des artistes, à Don Jodorowsky, par exemple, Adrienne Poli, un groupe de rock que j'aime beaucoup qui s'appelle The Hellboy. J'ai travaillé avec des Jamaïcains, j'ai travaillé avec des musiciens africains, j'ai travaillé avec plein de gens, mais plus en studio. Je suis parti faire un voyage, un road trip, comme on dit, aux États-Unis avec ma femme et mon fils en 2010. Et là-bas, j'ai vu tellement de musiciens jouer dans tous les bars, dans tous les clubs, partout, dans toutes les villes. Il y avait le samedi soir, le vendredi, ça joue de partout. Et le dernier soir, on était à Los Angeles et je me suis fait ce qu'on appelle le strip, le Sunset Strip. Et là, il y avait genre 20 bars. Dans les 20 bars, il y avait des groupes qui jouaient de tout, n'importe quoi, dans tous les sens. Et je me suis dit, mais attends, c'est trop bien, j'ai envie de faire un truc un peu qui ressemble à ça à Paris. Donc en rentrant, je me suis dit, voilà, maintenant c'est bon, j'ai envie de refaire des concerts, j'ai envie de monter sur scène. Donc j'ai un peu fait le tour justement des bars de mon quartier, de Pigalle, et coup de bol, encore une fois, coup de bol, comme quoi, faut croire que j'ai une bonne étoile pour faire du rock'n'roll. Il y a un copain à moi qui venait de reprendre un bar qui avait une cave en dessous, qui avait servi justement à faire des concerts un peu de dancing dans les années 60, le Lautrec, qui faisait l'angle de la rue de Douai et de la rue Pigalle, juste en bas de chez moi. Et il m'a dit, bon, installe-toi là. Et donc, tous les jeudis, pendant 3-4 ans, on a joué pendant 2, 3 heures, 4 heures, tout et n'importe quoi, des reprises, des compos, des jams, des buffs, des invités. C'était une fête hallucinante, et fait un bien fou déjà de remonter sur scène et puis de jouer en live comme ça toutes les semaines. C'était un plaisir énorme.
Oui, sans respect des normes de sécurité, parce qu'il y avait plus de monde de prévu.
Les normes de sécurité, le rock'n'roll,
c'est autre chose. Et alors, ça s'appelle le Lautrec parce que Toulouse-Lautrec a été le premier spectateur du Moulin Rouge, mais l'ancien Moulin Rouge qui était dans les jardins, il était là tous les soirs. C'était une baraque en bois, le premier Moulin Rouge, oui. On sait le cancan, et il était là, et il était admiratif de la Goulue, elle disait de lui qu'il avait des lèvres en rebord de baignoire.
Ah ben voilà.
Alors, c'est de là qu'est partie, finalement, l'aventure de Johnny, grâce à Mathieu Chélid.
Donc, je sais que Mathieu enregistre un album avec Johnny, je le croise dans le quartier. Voilà, je lui dis que je joue donc effectivement à Lautrec, et il me dit que lui, il vient de finir l'album de Johnny, qu'ils ont des promos. J'ai dit, putain, t'as du bol d'avoir fait ça, ça doit être génial de bosser avec lui et tout. Et il me dit, écoute, nous on fait un taratata normalement dans, je sais pas quoi, dans 2 semaines. Si tu veux, viens jouer un titre avec nous, parce que je l'avais déjà croisé, Johnny, sur le tournage de Jean-Philippe. Donc, je lui dis, évidemment, attends, ça me ferait trop plaisir. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire cette émission de télé avec Mathieu Chédid, Johnny et mes copains du groupe Gush, qui sont ceux qui accompagnaient Johnny, le batteur de Gush, et celui qui jouait avec Mathieu Chédid sur l'album qu'il a fait pour Johnny, mais c'est eux aussi qui jouent sur la BO de Bus Palladium.
Voilà. La boucle est bouclée. Et finalement, votre vie a basculé à Hérol Poupeau quand Johnny vous a appelé à 2h du matin.
De fil en aiguille, on me propose de faire des promos, comme on dit, avec Johnny, c'est-à-dire d'aller faire une émission de télé, une émission de radio, un autre truc. J'en fais une ou deux, ça se passe bien. Et juste avant qu'il reparte à Los Angeles pour se reposer avant de préparer sa tournée de 2012, on fait une émission tuant une radio concurrente à la vôtre. Et c'est un petit concert dans les studios de la radio, en sous-sol, et ça se passe super bien. Il y a une super énergie, il y a genre 200 personnes. C'est un peu comme si on jouait au Lautrec. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un petit comité, sur une petite scène, et vraiment les sensations d'un vrai concert de rock'n'roll. Ça se passe très très bien, et voilà, bon, on termine le concert. Bon, bah salut, écoute, rentre bien à Los Angeles, tu m'appelles quand tu viens à Paris, je viendrai te voir en concert, t'inquiète pas, je t'appellerai, à bientôt. Puis si tu viens à LA, tu viens me voir. Ok, super. Et à 2h du mat, bing, ça sonne chez moi, et il me dit, dis donc, j'ai réfléchi, est-ce que ça te branche de venir faire la tournée avec moi ?
Ouais. Il réfléchit vite, Johnny, et il a toujours tout décidé.
Ben, c'est-à-dire que, oui, il va pas trop... ça, c'était très agréable de bosser avec lui, parce que c'est un mec, effectivement, qui prend un certain temps, peut-être, à prendre une décision, enfin, qui pèse le pour le contre, mais une fois qu'il a pris une décision, c'est acté. Et puis, ça, c'est bien.
Et puis, un travail, chaque détail compte. C'est-à-dire qu'il ne vient pas aux répétitions au début, mais après, quand il vient, il voit tout, il entend tout.
Ben, quand même, oui, ben, déjà, on n'est pas Johnny Hallyday pour rien. Hein. C'est pas un hasard si le mec a eu cette carrière-là. Et puis, oui, c'était un super musicien, c'était un vrai passionné. Il avait une culture musicale et du rock'n'roll énorme. Et ben, il avait travaillé avec tellement de gens, il avait fait tellement de trucs que oui, il avait un vrai sixième sens et une vraie oreille de ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire que des fois, on jouait, tout se passait bien, et sur le deuxième couplet, il y avait un truc un peu bizarre. Ah bon ? Bon, personne ne s'en était rendu compte, et puis en écoutant, effectivement, sur le deuxième couplet, je m'étais planté un petit peu, ou le pianiste avait mis une note un peu à côté, ou le batteur, je ne sais pas quoi.
Et voilà. Et il y a une tournée qui est restée mythique, c'est celle de Rester Vivant.
Rester vivant, rester vivant.
Et là, on vous attendait au tournant, Errol Poupour. C'est-à-dire qu'on disait, ouais, bah, il est en sursis, ce mec, il ne va pas durer longtemps, et puis vous êtes resté.
Ben, en fait, la première fois, quand j'ai fait la tournée, à la base, j'étais censé être guitariste, et donc, du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de directeur musical d'engager sur la tournée. De fil en aiguille, ils me proposent de m'occuper un petit peu de la direction musicale. Je me retrouve donc à faire ça de fait, mais sans que ce soit vraiment officiel. Après, on essaie de fidéliser le truc. Les partenaires, les producteurs de la tournée et tout ça se disent, mais quand même, confier, c'était son grand retour sur scène, c'était des stades, confier la direction musicale à ce mec qui vient vraiment de rock'n'roll plutôt underground, un peu alternatif, indie, le dernier concert qu'il a fait, c'est dans une cave devant 70 personnes au Lautrec. Voilà. Est-ce qu'il va être à la hauteur pour gérer quand même une telle pression, un tel spectacle? Et puis, donc, c'est sûr qu'au début, il fallait que je fasse mes preuves, quoi. C'était pas facile, mais je les comprends. Hein. Ouais, moi-même, j'aurais dit, pourquoi moi ?
Voilà. Mais les fans vous ont remercié en disant, vous avez rendu notre Johnny.
Ben oui, parce qu'en fait, cette volonté qu'il avait, d'ailleurs, et dans laquelle on allait dans le même sens là-dessus, c'était une vraie volonté de revenir à un show plus rock'n'roll, plus direct, plus organique, moins lisse, plus rugueux, un peu plus bordélique, mais dans le bon sens. Donc ça, c'est sûr que les fans, les ultras et les fans hardcore de Johnny, c'est ce qu'ils attendaient, c'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce que moi j'aime aussi. Enfin voilà, on a envie d'aller voir un concert de rock'n'roll, on n'a pas envie d'aller voir un truc un peu trop clean, un peu trop produit, un peu trop lisse, où on sait, voilà, où il n'y a rien qui dépasse, quoi. On a envie d'un petit peu de la sueur, de danger, de risque.
Voilà, et avec Johnny, il y en avait. Il a donné, d'après votre livre, 3256 concerts, ce qui est un record.
Lui ?
Oui.
Ah ben ouais, je sais pas, ouais.
3256,
bon. Ben voilà.
Bon, ça c'est un chiffre, un autre, c'est une autre date, le 12 novembre 2020, on en parle dans quelques instants avec Errol Poupour sur Sud Radio.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Errol Poupour. 12 novembre 2020 est sorti ce livre, Électrique chez Plomb. Alors pourquoi aujourd'hui écrire vos mémoires, raconter tout ça dans un livre, Errol Poupour ?
Franchement, moi, ça ne faisait pas partie de mon agenda. Je m'étais dit, évidemment, on y pense, on se dit, mais je me disais, peut-être un jour, quand je serai plus vieux, à 70 ans, au coin du feu, j'écrirai mes mémoires, tout ça, voilà. Mais en fait, c'est venu d'une proposition. J'ai eu deux coups de fil la même semaine de deux personnes qui ne s'étaient pas pas parlé avant, qu'ils n'étaient pas mis d'accord et qui m'ont proposé de travailler sur un bouquin en me disant, donc mon co-auteur, la Frédéric Béguin, avec qui j'ai travaillé sur le livre, et une fille qui est éditrice chez Plon. Et donc les deux m'ont appelé en me disant, je suis sûr que tu serais, que tu aurais des trucs à dire, ce serait bien que tu écrives un bouquin, que ça te brancherait d'écrire un bouquin. Donc moi au début j'ai dit non, je les voyais venir, je me dis, vous voulez un bouquin sur Johnny? Non, pas du tout, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc j'ai commencé à me prendre au jeu, et puis en fait, j'ai adoré faire ça. C'est-à-dire que j'ai fait un premier entretien, et puis j'ai commencé à raconter des histoires, ça m'a fait marrer, ça a fait marrer mon pote avec qui je bossais. Et puis il y a eu aussi presque un peu comme je l'ai vécu un peu comme une thérapie presque. Voilà, une histoire, une espèce de manière de revenir en arrière, de mieux comprendre pourquoi j'en étais arrivé là, comment... voilà, un peu comme si j'avais fait une espèce de psychanalyse, quoi.
Oui.
Et puis c'est surtout que du coup, maintenant ça s'est fait, maintenant il faut écrire le deuxième.
Voilà.
Enfin, je veux dire, il faut remplir, quoi, il faut le vivre, le deuxième.
Voilà, alors dans le premier, vous évoquiez certaines choses surréalistes que vous avez vécues, Yarol Poupeau, dont ce groupe hyporéaliste avec une exposition dans une galerie. Ça, c'est étonnant.
Ah bah oui. Alors toujours, c'est étonnant. Avec mon pote Hopi Lebel et toute une bande de copains un petit peu artistes, plasticiens et tout, on avait eu cette révélation en allant une fois dans une expo qu'on avait vue dans le 6e, d'un artiste, je ne sais plus lequel c'est, qui avait fait un truc. Et franchement, on avait regardé ça avec mon pote, on a dit, mais franchement, ce qu'il avait fait ce mec-là, c'est pas très compliqué, on pourrait faire pareil. Donc on s'est enfermé pendant des jours entiers, on a monté ce mouvement hyporéaliste qui était le contraire des surréalistes, donc le concept de sous-réalité, comme une énorme blague. Et vu qu'on avait des contacts, on avait une copine dont les parents tenaient une galerie rue Keller à côté de la Bastille, et ben on a eu une expo pendant 4 ou 5 jours, on a exposé tout et n'importe quoi, genre des télés à l'envers avec des espèces de montages qu'on avait fait en découpant des bandes VHS nous-mêmes avec des ciseaux. Et c'était très très marrant à faire. Et effectivement, alors ce qui était drôle, c'est qu'on avait fait une espèce de grand vernissage, qui était une grosse fête. Alors il y avait des critiques d'art et tout, c'était assez marrant. Mais ce qui était marrant, c'est qu'on tenait la permanence à la galerie pendant les 4-5 jours qu'en durait l'exposition, et que c'était très rigolo de voir des gens se balader, rentrer dedans et regarder très sérieusement. Dis donc, c'est intéressant. Qui sont ces artistes?
C'est le genre de canular qu'on ne fait plus.
Pourquoi pas.
Il y a un âne à Montmartre qui a comme ça peint une toile avec sa queue et c'est devenu un chef-d'œuvre.
Voilà. Enfin,
alors, il y a eu aussi d'autres choses. Il y a eu le temps des galères. Il vous est arrivé, Yarol Poupeau, de partir à Amsterdam
on
faire un gala.
On pas avec nos mains.
Oui. Vous êtes parti un jour à Amsterdam pour un gala et vous êtes arrivé après la fermeture, après la fin du gala.
Ça fait partie des. Voilà, ça c'était quand je travaillais avec un groupe, enfin travailler c'est un grand mot, quand je jouais avec un groupe qui s'appelait les Cosmic Wurst et qui avait donc effectivement plein de connexions dans ces milieux punk, underground, dans des squats, dans des trucs où c'est pas vraiment très bien organisé. Et mon pote m'appelle à 18h en me disant « Il faut qu'on soit à minuit à Amsterdam, on a un concert ce soir, on joue à minuit dans un club, vite, tout le monde... » Et évidemment, on arrive plein de trucs, le mec était en retard, la camionnette était en retard, il y en avait un machin, on a eu des galères pour y aller. On est tombé en panne sur l'autoroute, on a pu descendre. Que des galères, on arrive à 4h du matin, évidemment, le truc est...
Voyage pour rien.
Mais on s'est débrouillé le lendemain, on a quand même réussi à jouer... Parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui avait une radio, une espèce de radio associative. Donc on a quand même réussi à jouer dans les studios de la radio associative. Il y a des mecs qui écoutaient la radio, qui ont appelé la radio pour nous booker, pour aller jouer dans une fête aussi chez eux, dans un squat. Enfin, au final, on a raté le concert qu'on était censé faire, mais on en a fait deux qui étaient très très marrants aussi.
Il y a eu des moments plus surréalistes aussi. Je crois qu'à Naples, vous avez joué dans un club, Yarol Poupeau, tenu par la mafia.
C'est un euphémisme. Voilà. C'est-à-dire que c'est des milieux, le milieu de la nuit à Naples, la mafia, enfin je sais pas, moi je veux pas non plus avoir de problème avec ça.
Non plus ici.
Si. On s'est vite rendu compte que les mecs qui nous accueillaient et tout ça était, avait vraiment tous les stéréotypes. On se serait vraiment cru dans un film de gangster, quoi. C'était assez marrant, c'était très drôle. Et c'était super cool, d'ailleurs. Ils nous ont baladés partout, après, en bagnole. C'était très sympa. Les mecs étaient vraiment...
Mais vous avez représenté aussi la culture française, en Afrique et à Java. Vous êtes retrouvé en pleine révolution. Enfin, vous avez connu des surréalistes.
Donc, il y a cet organisme qui s'appelait l'AFA, je crois, qui était le département culturel des affaires étrangères, qui a pour mission de faire rayonner la culture française à l'étranger. Donc ils ont un budget chaque année. Alors un coup, ils vont faire venir une représentation de Cyrano de Bergerac, ils vont faire venir une troupe de théâtre, de danse par exemple, ils vont faire une expo d'un artiste, et de temps en temps, il faut venir un groupe de rock. Donc on s'entendait bien avec eux, et effectivement, c'est sûr qu'ils nous avaient envoyé jouer en Afrique. On avait joué au Kenya, on avait joué au Zimbabwe, mais et donc en Asie du Sud-Est, on avait fait une tournée, on avait joué à Java.
Oui.
Pile au moment, c'était je crois en 97, où ils ont renversé Suharto.
Oui.
Et c'était, oui, carrément, on se retrouvait à Surabaya, la ville, là, carrément, dans une espèce des scènes de guerre civile, avec des chars, des mecs sur des motos dans tous les sens, avec des mitraillettes, mais exactement comme des films que j'ai revus depuis La Déchirure ou L'Année de tous les dangers. Vraiment, c'était dingue.
Puis il y a quelqu'un qui vous doit beaucoup, Yarol Poupeau, c'est Chuck Berry. Vous lui avez sauvé un concert grâce à votre guitare.
Ouais. Bah pareil, ça c'était encore une fois le Tanger. Alors c'était pas avec l'Alliance Française, c'était un vrai festival de rock international qui était à Bratislava, en Slovaquie. Et la tête d'affiche, c'était Chuck Berry. Donc moi, mon idole d'enfance, enfin toujours d'ailleurs, je suis toujours un énorme fan de Chuck Berry, guitariste extraordinaire, c'est un peu lui qui a inventé la guitare électrique moderne. Fait son concert, monte sur scène. Il faut savoir en général, il voyage les mains dans les poches, Chuck Berry. Il demande même des musiciens de location, on peut dire, un groupe sur place qui connaissent ses chansons, un ampli comme ça, une guitare comme ça. Donc il monte sur scène avec un groupe autrichien ce jour-là. On lui tend la guitare sur laquelle il est censé jouer. Puis au bout de 4-5 chansons, il casse une corne, il fait un peu la grimace et tout. Donc on fonce au camion, on ressort ma guitare, on la corne sur le côté et on lui donne. Et il finit tout le concert sur ma guitare. Et j'étais comme un dingue.
Ouais. Et il faut savoir aussi que pour ses 60 ans, la NASA lui a fait un cadeau. Je ne sais pas si vous le savez, Yarol Poupeau. Ils ont envoyé dans l'espace un extrait de son titre, Johnny B. Goode.
Ah ouais, c'est voilà.
Voilà, ce titre a voyagé à bord des sondes spatiales Voyager 2 en 77.
Eh bien, pas mal.
Voilà. Alors, il y a eu aussi une tournée avec une autre de vos idoles, qui est George Clinton.
Mm-hmm.
Ça aussi, c'est un musicien qu'on connaît peu, mais qui fait une grande carrière dans le monde entier.
Bah oui, enfin, on le connaît peu en France, peut-être, mais c'est quelqu'un d'extrêmement important dans la culture soul, funk, musique noire américaine. C'est un musicien extraordinaire, un producteur. Donc, c'est lui qui a monté des groupes comme Funkadelic, Parliament, le P-Funk All Stars. Et on avait travaillé avec lui sur notre tout premier album avec FFF parce qu'il avait. Il était venu, comment dire, nous adouber, on va dire, chevalier du funk sur les marches du Sacré-Cœur. C'était une idée du réalisateur qui avait fait le clip, Don Letts. Et on s'était bien entendu avec lui. Puis nous, on était tellement fans de sa musique. Et c'était vraiment une influence très très importante pour FFF, parce que c'est déjà dans sa musique un mélange de funk, de rhythm and blues, de rock psychédélique. C'est des grands fans de Jimi Hendrix aussi, de... on a eu la chance de l'accompagner sur toute une tournée européenne en 93, je crois. Et ça a été peut-être une quinzaine, 15-16 concerts partout en Europe en première partie. Et c'était génial. Bon, nous, c'était génial de jouer, mais ce qui était fantastique surtout, c'est d'être aux premières loges tous les soirs, de regarder ces dieux vivants du funk, ces musiciens extraordinaires prendre leurs pieds sur scène, jouer comme des dingues. En plus, il faut savoir que c'est des shows à rallonge, ça dure facilement 2-3 heures. Il y a un côté vraiment... long tunnel de groove, de funk et tout, c'était fantastique. On met dans une transe. Donc, vivre ça tous les soirs avec eux, c'était fou.
Oui, alors ce qui était fou aussi, c'est qu'un jour à Vienne, il arrive pour un concert, enfin, il rate le concert, il a raté deux avions, il était à Genève il y a 20 minutes avant d'entrer en scène. Ils ont trouvé un jet privé, des motards de la police, il est arrivé frais et dispo, décontracté, faire son concert.
Voilà. George alors, Clinton.
Ça veut dire aussi beaucoup de nuits blanches, vous dormez peu à cette époque-là et vous découvrez ce qu'on appelle les champignons hallucinogènes qui ont fait partie de votre quotidien, Yarol Poupeau.
Bah oui, enfin, entre autres, c'est sûr que quand on évolue dans ce milieu-là, quand on a 20 ans, qu'on fait du rock'n'roll, qu'on tourne avec des mecs comme Funkadelic, c'est sûr qu'on est vite amené à croiser certaines drogues, quoi. Après, il faut savoir pas tomber dedans complètement. J'en parle dans le bouquin. Hein, oui, j'ai effectivement testé plusieurs drogues. J'ai jamais testé l'héroïne, j'ai jamais goûté à l'héroïne parce que j'avais pas envie, puis ça c'est vraiment le truc le plus casse-gueule. Après, ça a toujours été dans un but récréatif et pour pour comment dire, un peu pour faire la fête. Ça n'a jamais été, j'ai jamais été dans des, une espèce de spirale de drogue dont je pourrais avoir besoin pour aller bien, pour me lever le matin, ou pour être créatif, ou pour travailler. Ou... Non, ça a été évidemment, bon, c'est sûr que les mecs de Funkadelic, enfin, en général, les rockers, voilà, on va pas se mentir.
Non,
hein.
Non,
mais c'est ce comme la mafia.
Ce qui est étonnant, Yorl Brouwer, c'est que je crois que c'est votre mère qui vous a roulé votre premier joint.
Ben, en fait, oui, mais c'était pas plus con, parce que évidemment elle était, elle, dans ce milieu aussi de musiciens, de cinéma indépendant, un peu d'auteur, un peu artiste, donc c'est sûr que les gens fumaient des joints, donc les gens fumaient des joints à la maison. Moi, je sentais cette odeur, c'est quoi cette cigarette roulée qui sent bizarre, voilà. Donc à partir de 14-15 ans, quand j'ai eu compris ce que c'était, voilà, et que j'avais un copain dans ma classe qui lui avait déjà fumé un joint, on en a parlé, et il se trouve que bon, voilà, moi je trouve l'intelligence effectivement de me dire, bon, écoute, si tu veux voir ce que ça fait, pour que tu sois au courant du truc, voilà, viens avec ton pote à la maison et puis je vous roulerai un petit joint, comme ça vous allez voir. Et moi j'étais plus content d'avoir fumé mon premier spliff, on va dire, dans ces conditions-là, plutôt que dans une cage d'escalier d'immeuble hyper glauque, ouais. Avoir à rentrer chez moi après, ou alors voilà, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans des conditions à la cool, on était à la maison, on a rigolé avec mon copain comme des baleines toute la soirée, et puis voilà, ouais. Et on a bien dormi.
Vous n'avez pas rigolé toujours, puisqu'un jour, à cause justement d'un peu de shit, vous êtes retrouvé en prison à New York, Yorl Poupou.
Oui, ben voilà.
C'était un contrôle stupide.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, je faisais du vélo sur le trottoir à Harlem. Alors, c'était moi qui étais un peu en faute aussi. Bah, ouais. C'est un peu concis. Et je me suis fait arrêter. Effectivement, j'avais un peu de drogue dans la poche. Donc, du coup, j'étais là genre... Qu'est-ce que je fais ? Et comme un con, j'ai eu ce réflexe débile de jeter le truc par terre. Alors que le pauvre... Mais il était très tendu, le mec qui m'a arrêté. Je crois que c'était son premier jour dans la rue. Enfin, voilà. On s'est retrouvés tous les deux. Pour un petit contrôle de rien du tout, d'un coup, ça a pris des proportions terribles. Et donc, du coup, j'ai flippé, j'ai jeté le truc. Et le mec l'a vu. Et donc, je me suis retrouvé, effectivement, en prison à Harlem... pendant un peu plus de 24 heures, alors que j'étais attendu sur scène à Épernay, mais pour savoir comment je m'en sors, il faut lire le livre.
Hein. Exactement. Alors, le livre, c'est électrique, et puis à l'avenir maintenant, puisque vous avez préparé un nouvel album qui sortira au mois de mars, et là aussi, bah, maintenant, la chanson, ça continue, Yorl Poupou.
Ah bah oui, complètement, ouais. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant, il faut s'occuper du deuxième, du volume 2.
Voilà. Et puis, continuez aussi vos activités de producteur, parce que vous avez aidé beaucoup de gens, vous avez été preneur de son, des gens qui ne savaient pas forcément qui vous étiez, et que vous avez soutenu des groupes de rock éphémères, des jeunes en Afrique. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui vous doivent beaucoup.
Ben, moi, j'aime ça. Je veux dire, c'est mon travail aussi de producteur, d'aider des jeunes. Là, par exemple, je viens de travailler sur un jeune artiste pareil, qui sort son album bientôt, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Victor Mécanique, avec lequel j'ai travaillé aussi sur mon disque, mais j'ai produit son album. Moi, ça fait... partie de ma mission, de mon boulot aussi, d'aider des plus jeunes, de faire profiter de mon expérience ou de mon savoir-faire pour aider des jeunes. Parce que c'est des gens, c'est comme ça que moi j'ai appris aussi, c'est avec des gens un peu plus vieux qui m'ont montré des trucs, qui m'ont appris des... Voilà, donc c'est un passage de relais, quoi. C'est ça le... C'est le but du jeu.
Voilà, passage de relais donc, avec également ce premier volume en attendant le second. Ça s'appelle Électrique chez Plomb. Merci de l'avoir écrit, merci de l'avoir raconté, Yorl Poupou. Puis vous revenez quand vous voulez, vous avez tellement de choses à dire.
Eh ben, pas de problème.
Merci.
Merci à vous, merci Jacques.
Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.